I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Alix, votre dévoué hôtesse d'affiché. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode a été réalisé en partenariat avec Disney+, à l'occasion de la sortie de la série Dollface sur leur plateforme. Je tiens donc à les remercier chaudement et je vous conseille de foncer assister aux aventures délirantes de cette nouvelle bande de copines dans Star sur Disney+. Juste après cet épisode d'affiché, bien évidemment. Bonne écoute.
If you're here, it means you need some help getting back.
Back to spending time with other women.
Women need each other now more than ever.
I just don't know how to act in a big group of girls.
Here's two second chances for old friends. But this is gonna be more fun for me if we're all drunk.
Hey, Dollface.
Don't.
What?
Don't call me Dollface.
Yes, girl.
En regardant le top 100 des meilleures séries avec une bande de potes sur Sens Critique, je suis tombée sur de nombreuses séries qui dépeignaient des amitiés certes mixtes, mais avec une claire prédominance du genre masculin. Dans New Girl, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Freaks and Geeks, et j'en passe, il ne semble y avoir de la place que pour une, voire deux femmes à la limite. Et la plupart du temps, elles ne servent que de love interest pour les personnages masculins. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette. Heureusement, de ce top 100 très varié se dégage un autre genre de série qui, pour le coup, ne met en scène que des amitiés exclusivement féminines, le groupe de copines. Dollface, Sex and the City, Desperate Housewives, The Bold Type. Quelle joie, en tant que femme, d'en voir d'autres se lier d'amitié sur mon petit écran. Cependant, l'identification n'est pas toujours aussi facile, car les séries de bandes d'amis souffrent de représentations faussées des bandes de femmes et manquent parfois cruellement de sororité et d'inclusivité. Alors je pense que c'est le devoir de ce podcast de décortiquer tout ça. Bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Affiché, le podcast qui met les femmes en haut de l'affiche en discutant de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle, et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse puisque je peux vous annoncer pour la première fois qu'un épisode d'Affiché est sponsorisé à l'occasion de la sortie en France de Dollface, la série de Jordan Weiss avec Shay Mitchell, Kat Dennings et Brenda Song, entre autres. Je tiens donc à remercier chaleureusement Disney+ Star de nous faire confiance. Et puis Dollface, bah c'est l'histoire de Jules, qui vient de se faire plaquer par son mec et qui décide de renouer avec ses deux amies, Madison et Stella, qu'elle a perdu de vue à cause de son ex-relation. Commence alors la difficile reconquête de sa bande de potes, qui donne lieu à des situations comiques et improbables. Et justement, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, on va discuter ensemble des séries qui mettent en scène des bandes d'amis IES, des groupes de femmes, qui au-delà du lycée et de la fac décident de rester amies et de traîner ensemble, donc pas des bandes d'amis circonstancielles. Mais vous vous en doutez, je vais pas partir en monologue. J'ai donc avec moi des expertes de choix dans cet épisode. On a Zineb Bayad et Joséphine Jovet du média 21st Century Women, que je vous suggère d'aller checker immédiatement sur Instagram et sur leur site, puisqu'ils abordent le cinéma avec un nouvel œil, celui de la mise en valeur des femmes qui le construisent. Et je reçois également avec une grande joie Iris Bray, journaliste, autrice et critique de cinéma spécialisée dans le genre et les sexualités, et qui vient de sortir un bouquin, donc Sous nos yeux, en collaboration avec Myriam Mal, qui parle du male et du female gaze que tu avais déjà théorisé dans Le Regard Féminin en 2020 et que j'ai reçu à mon anniversaire. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter tour à tour en donnant en prime le personnage féminin qui vous représente le mieux dans une série qui suit une bande d'amis IES ? Zineb, on commence par toi.
Alors, bonjour, je m'appelle Zineb Bayad et du coup, je suis rédactrice chez 21st Century Women avec Joséphine et trois autres amies qui n'ont pas pu être là. Et je pense que...
Ça aurait fait un grand podcast à 10.
Oui, c'est ça. Du coup, si je pouvais... Enfin, le personnage auquel je suis le plus attachée dans une bande d'amis, je pense que ce serait Rachel Green de Friends.
Mary, remember me? I'm the girl in the veil that stomped on your heart in front of your entire family. Oh God, and now I'm gonna have to return the ring without the ring, which makes it so much harder.
Donc c'est une bande mixte, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi et qui m'a beaucoup plus appris sur le fait d'être adulte et d'être une femme adulte et d'avoir des femmes amies que n'importe quelle série de jeunes adolescentes, en tout cas.
Trop bien, merci beaucoup. Et toi, Joséphine?
Donc moi, Joséphine, j'ai 22 ans. Je suis cofondatrice de 21st Century Woman, du coup, avec Zineb et trois autres copines qui n'ont pas pu être là. Et moi, la femme qui me représente le plus dans une série de groupes d'amis, ce serait Jane de The Bold Type.
I feel like a fraud. We work for this magazine that's all about having the most amazing sex ever, and you guys are having the most amazing sex, and Jacqueline obviously is. I can't tell Jacqueline. I just need to figure out a way to have an orgasm.
C'est aussi un peu plus mon modèle parce qu'elle est hyper ambitieuse, elle est super engagée, elle utilise vraiment sa plateforme pour parler de choses qui l'intéressent. Bon, moi je fais ça dans un cercle un peu plus restreint vu que j'ai pas la même plateforme qu'elle, mais puis c'est avec mes amis, avec ma famille, etc. Donc ouais, c'est vraiment mon modèle.
The Bold Type, c'est donc l'histoire de trois femmes qui travaillent dans un média américain. Ouais, et dans un média magazine, féministe. Ouais. Voilà,
c'est ça.
Merci beaucoup, Joséphine. Et toi, Iris?
Moi, je m'appelle Iris, je suis critique et autrice. Je viens de sortir, j'ai écrit un texte dans un livre qui s'appelle Sororité. Donc, je pense à cette notion de sororité de manière un peu omniprésente depuis un certain temps. Et moi, si je devais choisir une personne, je pense que ce serait Jenny dans The L Word.
Do you hear that? Oh my God, it's Monet! Monet has come back from the dead and he wants me to give you a message. He says, I am so sorry for sitting in front of my pond in France and sketching those water lilies and using the water lilies as actual inspiration. Sorry to offend, Alice.
Je m'identifie pas mal à ce personnage depuis un certain nombre d'années et je trouve que c'est un très bon cheval de Troie. Et bon, même si elle devient odieuse à partir d'un certain moment, j'espère que ça ne m'arrivera pas et que je ne tuerai pas de chien. Mais c'est un personnage qui m'est cher.
Trop cool. Merci beaucoup à toutes les trois. Aujourd'hui, on va donc discuter de la représentation des femmes dans les séries qui se concentrent sur les girls bands, entre guillemets, les bandes d'amis. Mais pas les bandes d'amis, donc circonstancielles, comme je disais, celles qu'on a au lycée ou à la fac, comme dans Gossip Girl ou Pretty Little Liars, mais les groupes d'amis à l'âge adulte, celles qui ont choisi de rester potes. Et on a pléthore d'exemples, puisqu'on a Sex and the City d'abord, qui a certainement frayé un sacré chemin dans les années 90 pour ce genre de programme. On a aussi Desperate Housewives dans les années 2000, The L Word d'Hélène Shaken et Girls de Lena Dunham pour les années 2010. Et je précise que ces deux dernières, les créatrices de ces deux dernières séries parce que elles sont encore trop rares, les femmes qui passent derrière la caméra pour réaliser ce genre de programme qui pourtant les concerne directement. Donc, on va commencer avec un petit historique pour remettre un peu de contexte. Depuis quand les groupes de femmes sont-ils au centre des séries? Leur représentation a-t-elle eu un impact sur la société et la façon dont elles voient et traitent les femmes? Je me tourne vers toi, Iris, qui...
Ouais. c'était une question que je m'étais posée dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Sex and the Series où j'avais découvert une série qui s'appelle Les Craquantes où c'est un groupe de femmes âgées, ménopausées qui vivent en fait ensemble et qui ont encore une sexualité. Et pour moi, c'est vrai que c'était un peu un choc de découvrir cette série des années 70 parce que à la fois, ça montrait déjà qu'on pouvait vivre sans homme et puis aussi qu'on pouvait encore avoir du désir, même à 90 ans. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit en fait, souvent. Donc, je m'étais dit qu'il fallait entretenir tout ça. Donc, en fait, la sororité, ça existe depuis longtemps. Ce qui est nouveau, je pense que c'est ce qu'on en attend en fait, aujourd'hui. Et je pense qu'on va aussi beaucoup plus loin dans les représentations de sororité aujourd'hui avec... comme par exemple The Handmaid's Tale, qui pour moi est une très grande série sur la sororité, même si elle n'est pas toujours perçue comme ça. Mais on voit vraiment des femmes qui s'organisent entre elles pour faire basculer le patriarcat, qui a un autre nom dans la série. Mais pour moi, voilà, je pense qu'il y a un fil en fait, historique, mais je pense qu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin.
Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai l'impression aussi, de ce que j'entends, parce que moi, j'étais pas née quand Sex and the City est sortie, Mais que ça a vraiment changé aussi la façon dont on parle sexualité pour les femmes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage de Samantha, j'ai l'impression qu'il a vraiment marqué les esprits.
Ah bah moi, je me souviens. Moi, j'étais adolescente quand c'est sorti, et c'est vrai que c'était. Moi, je me souviens précisément d'où j'étais assise la première fois que j'ai vu ce programme-là.
Et ah ouais.
Oui, et surtout en fait, ce qui était très intéressant, c'est que je comprenais pas toutes les blagues. Et c'est là où je me suis dit, tiens, si je comprends pas les blagues, c'est qu'il y a plein de trucs que je connais pas.
Ouais.
Et ça m'a donné envie de comprendre toutes les blagues. Et aujourd'hui, je pense que je les comprends beaucoup mieux. Ça veut dire que j'ai progressé. Mais voilà, je pense que ça a eu un vrai impact. Parce que aussi, c'était important parce que c'était la première fois qu'on voyait des amis qui prenaient en main aussi leur désir et qui parlaient de leur plaisir.
Mm-hmm.
Et c'était... Enfin, moi, j'ai rencontré Eileen Shaiken, par exemple, à Los Angeles. J'ai fait des interviews avec elle et avec certaines des comédiennes de la série. Et c'est vrai que, par exemple... Et des scénaristes aussi qui ont quand même... changer le monde, enfin que ce soit, je veux dire, c'était Darren Star pour Sex and the City, mais c'était aussi Patrick Kelly. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc Sex and the City, c'est deux créateurs, des hommes gays, qui ont créé la série, mais ceux qui l'écrivaient, c'était que des femmes.
Mm.
Et j'avais eu cette anecdote d'une des femmes qui parlait du clitoris, et en fait, le créateur ne savait pas en fait où ça se situait, puisqu'il ne faisait pas l'amour avec des femmes. Et donc, elle l'avait dessiné sur un tableau. Et je pense que ça, c'est hyper fort en fait comme anecdote, parce que ça veut dire que tout d'un coup, il a fallu mettre des mots, dire des choses. Et par exemple, l'épisode avec le sextoy qui s'appelle The Rabbit, ça a eu un impact concret, puisque les ventes de ce sextoy ont augmenté de 90%. Donc, enfin, c'était délirant, quoi. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que l'impact de la série, ça a eu un impact réel sur les ventes d'un sextoy, mais je pense sur les vies aussi de femmes.
Mm-hmm. Et tu parlais tout à l'heure des craquantes et même du rabbit, et ça me fait penser à une série que j'adore aussi. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont une bande si elles sont deux? Mais c'est Grace and Frankie,
où
vraiment c'est des femmes âgées qui décident, sont un peu forcées de vivre en coloc, puisque leurs deux mecs se sont barrés ensemble. Enfin, ils ont décidé de vivre leur histoire d'amour, et donc elles se retrouvent toutes les deux à vivre l'une avec l'autre et à inventer
un god troisième âge.
Exactement.
Et ça, c'est génial.
Pour l'arthrite,
le fait que les yeux marchent moins bien avec des trucs voyants.
C'est
du génie.
Ouais, ouais, absolument. C'est trop trop bien. Est-ce que vous, il y a une série Zineb et Joséphine qui a changé, pour Iris Sex and the City, qui a changé un peu votre vision des femmes
c'est marrant parce que c'est Sex and the City aussi, et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas de la même génération. Enfin, moi, Sex and the City, c'est sorti l'année de ma naissance, et pourtant, c'est vraiment la série qui, je pense, parle le plus et le mieux de la sexualité, en tout cas des femmes, parce que c'est le sujet principal.
Mmh.
Et moi, je sais que même si j'ai regardé beaucoup plus tard... ça m'a vraiment changé. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper important de parler de tout ça, de parler de masturbation féminine. Enfin, c'est quand même un sujet qui est encore aujourd'hui malheureusement tabou, beaucoup moins qu'avant, mais ça reste tabou. Et ça parlait vraiment de tous les sujets, sans aucun tabou à l'époque. Et donc moi, Sex and the City aussi, quoi.
Mm-hmm.
Moi, malheureusement, j'ai pas autant de références que vous. Et je rebondis sur les private jokes qu'on connaît pas quand on est enfant. En tout cas, je ne regardais pas 8 ans non plus. Mais en tout cas, voir qu'il y a des sortes de langages entre femmes et qu'elles ont des blagues entre elles, et qu'en grandissant, on va comprendre que, tiens, cette blague-là, c'était parce qu'elle parlait de sexe ou qu'elle parlait de son patron, etc. Et c'est une sorte de langage commun entre amies femmes. Et je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus tomber amoureuse de ce genre de relation, en fait. C'est le fait d'avoir... Céline Sciamma, elle disait qu'une histoire d'amour, c'est inventer son langage. Et je trouve que les amis, c'est mieux. C'est des silences, c'est des blagues qu'on se partage. Et je trouvais ça juste incroyable de trouver ça... je cherche ça un peu partout dans toutes les séries que je regarde maintenant.
Mm-hmm. Et du coup, comment on peut dire que les amitiés entre femmes sont représentées? Est-ce qu'il y a des clichés quand même qui sont perpétrés dans ces séries, même si on a beaucoup parlé des séries qu'on aimait? Est-ce que vous retrouvez des stéréotypes qui reviennent souvent?
Oui, enfin déjà, Sex and the City, j'ai beau adorer la série, ça parle que d'hommes, quoi, tout le temps. Donc on parle pas que de ça entre nous, heureusement. Après, y a aussi des clichés qui, je trouve, restent malgré tout dans les séries actuelles. Je pense à l'hypersexualisation des femmes dans le sens où elles ont toujours besoin d'avoir beaucoup de partenaires ou beaucoup de relations pour montrer qu'elles sont libérées sexuellement. Et je trouve ça un peu dommage. Enfin, bien sûr que les femmes, si elles veulent coucher avec un mec ou une femme par jour, elles font ce qu'elles veulent. Mais je trouve ça dommage de montrer que la libéralisation sexuelle de la femme se fait par la multiplicité des partenaires. Et ça, j'ai trouvé ça dommage.
Et d'ailleurs, même... c'est intéressant parce que dans The Bold Type, qui est ta série préférée, ouais. Jane a jamais eu d'orgasme. Et ouais, ça, je pense que ça, important. C'est hyper important parce que c'est quand même 10% des femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Et évidemment, ça participe aussi à une méconnaissance de comment est-ce qu'on arrive jusqu'à l'orgasme et où se situe le clitoris et comment il est stimulé. Mais je trouve que c'était... pour moi, hyper intéressant d'avoir une héroïne justement qui était qui ne connaissait pas encore ça.
Ah ouais, mais moi, cet épisode, il m'a énormément marquée parce que j'ai beaucoup de copines qui me disaient qu'elles étaient frigides, par exemple. C'est un mot que je supporte pas. Et je trouvais que cette série abordait super bien le sujet et montrait que c'est pas du tout la faute de la femme et qu'il y en a beaucoup et que ça arrive et qu'au lieu de parler de l'orgasme, on va parler justement du manque d'orgasme et du fait qu'elle en a jamais eu et qu'en fait, c'est pas grave et c'est pas un tabou et on en parle et c'est comme ça qu'on sait qu'en fait, ça arrive à d'autres personnes, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que vous avez d'autres idées de clichés, justement?
Moi, je pense que moi, je pense qu'un des plus gros clichés, c'est la rivalité.
Ouais. Ça, c'est insupportable.
Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus... En fait, ce qu'il faut vraiment démanteler, je pense, entre femmes, c'est cette notion de rivalité et de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'à travers le regard des hommes, on a tout appris à se jauger, à se donner des notes. Enfin, c'est terrible, on le voit même dans des séries, quand les hommes donnent des notes à des personnages féminins. Et cette hiérarchisation, en fait, c'est ce qui fait que le patriarcat tient debout. Et à partir du moment où on arrêtera de se voir en tant que rival et qu'on commencera vraiment à être dans une solidarité, dans une entraide, et peut-être même dans la création d'un langage commun, je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut vraiment faire bouger les choses.
Moi, il y a une série qui m'a un peu frappée. Je me refais Desperate Housewives en ce moment. Une série que j'ai adorée quand j'étais petite et j'avais complètement oublié, en fait. Et je re-regardais et j'étais là, c'est fou comme elle a plutôt bien vieilli, cette série. Par contre, il y a juste un truc qui m'agace au plus profond. Bon, j'ai jamais aimé Suzanne, mais...
mais
elle est un peu agaçante. Mais en fait, j'aime pas du tout ce qui... L'angle que la série prend sur le personnage de Eddie, qui est quand même un personnage, pareil, libéré sexuellement, qui, aime s'habiller sexy, qui est... Mais en fait, comme j'ai l'impression que la série l'a fait un peu passer pour la connasse du quartier de service, alors qu'en fait, quand tu écoutes ce qu'elle dit, c'est la seule qui est à peu près honnête, c'est la seule qui, quand Suzanne vient lui demander si elle peut sortir avec un gars qu'elle a déjà date, elle a dit non, ça me dérange. Et c'est Suzanne qui respecte pas. Et enfin, c'est la seule qui veut en plus se faire des amis.
Mais il me semble qu'il n'est pas accepté du tout dans le groupe.
Si je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais elle n'a pas d'enfant.
Non, elle n'a pas d'enfant.
Et ça, c'est autre chose en fait. C'est le fait que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont moins valorisées dans les séries et sont moins valorisées par les groupes de femmes ont et qui souvent, du coup, les méprisent ou les ostracisent ou les regardent différemment. Et je pense que ça, on touche à quelque chose d'extrêmement tabou, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va parler de la maternité entre femmes et entre celles qui ont des enfants et celles qui n'ont pas d'enfants. Et peut-être que vous, c'est pas un sujet qui vous préoccupe par votre âge, mais moi, c'est un sujet qui me préoccupe un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'est représenté dans les séries. Et pour moi, ça reste une des choses les moins représentées, c'est la question du désir d'enfant ou du non-désir d'enfant. Et ces conversations-là, elles n'existent pas encore dans les séries. Et je pense que c'est hyper important qu'on y arrive.
Elle existe dans Desperate Housewives, puisqu'au début, Gabrielle veut pas d'enfant. Et elle se fait piéger par son mec... qui bidouille sa pilule.
Oui, bien sûr, mais bon, ça, par exemple,
c'est un enfer, elle reste avec le gars, et j'étais là, j'avais oublié ça, c'est horrible.
Oui, mais ça, par exemple, en fait, c'est passible, en fait, d'aller... tu vois, c'est hyper grave, en fait, c'est la même chose qu'on a vu dans le film Énorme de Sophie Le Tourneur. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est une perspective féministe sur ce discours-là, et qu'on ait plusieurs perspectives, et de montrer aussi que ça peut créer des vrais... dissensions en fait et des vraies disputes entre des amis qui se connaissent depuis toujours et qui tout d'un coup ne vont pas avoir le même rapport au désir d'enfant et à l'avortement et au choix de vie qui vont avec aussi le fait d'avoir un enfant.
Il y a un côté un peu frivolité des discussions de femmes aussi dans les séries où on va parler que de classiques, enfin ces séries écriture en général, donc on va parler de shopping, on va parler des mariés, etc. Mais il y a toujours une sorte d'éclipse des sujets littéralement primordiaux. Où on va jamais parler d'avortement, on va jamais parler de le deuil d'un enfant, par exemple, ou des choses comme ça qui remettent une amitié en question. Et franchement, c'est quelque chose qui est assez insupportable à voir, je trouve, parce que justement, c'est dans cette intimité du chit-chat, en fait. C'est remettre le chit-chat à la mode, les discussions de femmes vont être mises en scène comme elles parlent de la pluie et du beau temps, mais en fait, on revient à des discussions de la pluie et du beau temps, mais avec une intimité et en sorte de... Quand c'est bien écrit, comme dans Fleabag, par exemple, des moments les discussions les plus insignifiantes, leur donner du sens, je trouve que c'est ça, en fait. Les femmes, elles n'ont pas oublié de parler de politique pour être valides, pour avoir une discussion valide, en fait. Le simple fait de discuter entre elles et de s'ouvrir sans aucune performance par rapport aux hommes, je trouve que c'est déjà assez pour que ce soit une amitié saine.
Oui, parce que je pense que en fait, Sex and the City, ça nous a beaucoup donné la scène culte du brunch, qui est importante, bien sûr, mais en fait, ça peut la sororité, c'est pas juste bruncher entre copines, quoi. Ouais. Et moi, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi dans les conversations du quotidien que on peut vraiment voir la sororité. Moi, ce qui me manque aussi beaucoup à l'écran, c'est de voir des activistes, en fait, de voir qu'est-ce que c'est que le militantisme. Et je pense qu'une série comme Mrs. America, qui est sortie l'année dernière, est hyper importante parce que aussi, c'est des moments où on voit des femmes qui se parlent entre elles et où il y a une pensée qui arrive et l'émulation par la discussion et les groupes de parole non mixtes. C'est hyper important. Et ça, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut... On l'avait aussi un peu vu dans Masters of Sex, dans les années 70, où quand les groupes de femmes commencent à se parler de leur corps, commencent à circuler avec un miroir et à regarder leur vulve. Tout ça, c'est hyper important de le voir dans nos séries.
Et bien justement, la série Dollface, dont on est partenaire aujourd'hui, en fait, remet un peu en question ces clichés. Parce que c'est donc cette femme qui en fait a perdu contact avec ses amis de lycée, de fac. Elle va essayer de renouer avec ses amis et elle se retrouve confrontée à plein de clichés sur les bandes d'amis, donc typiquement le brunch, et elle n'a pas les codes et en fait elles vont nouer une amitié qui va au-delà aussi de ces choses-là. Et moi, alors il y a une série que j'adore mais qui fait vraiment pas l'unanimité, c'est Girls de Lena Dunham, qui je trouve... fait des vrais portraits de femmes. Alors, elles ont toutes énormément de défauts. Elles ont des conversations parfois insupportables. Elles ont des disputes entre elles qui sont atroces. Et en même temps, je trouve que c'est bien écrit. Enfin, moi, j'adore cette série. Et je trouve que ça parle de sexualité avec intelligence. Ça commence par une saison 1 qui parle de l'avortement direct. Et qui... Enfin, je sais pas, qui écrit assez justement.
Moi, la chose qui me dérange vachement dans la série, c'est que pour moi, c'est pas du tout une série de bandes de copines. Elles sont horribles entre elles. Enfin, vraiment, elles sont horribles. Enfin, il n'y a aucune sororité, vraiment. Enfin, il n'y a pas du tout de ça pour moi. Les seuls moments où vraiment elles se comportent en amies, il y en a très peu. Elles ne prennent pas des nouvelles les unes des autres. Enfin, je trouve que les épisodes, c'est vraiment... Oui, c'est bien écrit, mais c'est vraiment la vie de un peu chaque copine de son côté. C'est rare qu'elles soient toutes ensemble. Enfin, moi, au début, j'aimais bien parce que je me disais... Enfin, j'aime bien la série, mais au début, j'aimais bien ce côté montrer que oui, on a des copines, mais on ne va pas bruncher tous les dimanches ensemble, qu'on a notre vie à côté, etc. Et qu'on aime bien être seule aussi, parce que même sans personne, sans mec, sans meuf, on aime bien être seule. Mais au bout d'un moment, moi, ça me saoule un peu, quoi, de jamais les voir horribles ensemble, quoi.
Moi, c'est une série que j'adore. Personnellement, je pense que c'est une série extrêmement importante et qui a révolutionné le monde sériel. Il faut savoir que Lena Dunham, quand elle arrive, c'est la première, depuis Sex and the City, on n'a pas vu des femmes qui avaient de désir. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que la sexualité, ça peut aussi être nul.
Ouais.
Et que le sexe, ça peut être chiant, que ça peut être pas bien, Et je veux dire, toute la première saison, quand elle est avec Adam, elle se soumet à ses désirs à lui, et quand il lui demande, elle, ce qu'elle veut, en fait, elle ne le sait pas. Mm-hmm. Et ça, c'est la première fois que c'est représenté, parce que Sex and the City, elles sont déjà à un âge plus avancé, et c'est comme si c'était naturel de savoir ce qu'on aimait.
Ouais.
Elle, elle montre bah, que ça, le sexe, ça peut être mauvais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense qu'en fait... Girls, c'est pas sur une bande d'amis. Mmh. C'est sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est différent qu'en France. C'est-à-dire que le moment de la fac est le moment où il y a beaucoup d'amitiés qui se créent parce qu'on est tout le temps avec les gens. Donc, et c'est 4 années et puis après, on termine la fac. C'est sur l'après-fac. Donc, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on fait de ces amitiés qui deviennent hyper intenses pendant 4 ans et qu'est-ce qu'on fait de ces amis-là. Mmh. Et je pense que ça montre justement que, bah, en fait, on n'est pas la même personne entre 20 et 24 ans. On bouge vachement. Et comment est-ce qu'on fait pour garder des liens avec des personnes avec qui finalement on n'a plus rien en commun. Mmh. Et je pense que c'est... Ouais, moi je pense que c'est une... Pour pas divulgâcher, mais quand même la dernière saison où il est question en fait d'enfants. Moi je trouve oui, que le lien en fait entre Marnie et Anna, il est hyper beau et hyper intéressant. Et pour moi, c'est une très très grande scène de sororité. La fin de Girls, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on fait pour... être là pour l'autre, même quand on respecte pas les choix de l'autre. Ça, c'est hyper fort. Donc, je suis d'accord, il n'y a pas l'effet de bande, mais ça parle de comment est-ce qu'on veut garder des liens avec des femmes qu'on a connues entre nos 20 et nos 24 ans, et comment on fait pour que ces relations, elles évoluent.
Ouais, ouais, ben ça, je suis grave d'accord, avec toi. Et je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit par rapport justement au sexe dans Girls. Et la différence avec Sex and the City, c'est que dans Sex and the City, quand le sexe est nul, en fait, c'est des scènes qui sont hyper comiques, c'est super drôle. Mm-hmm. Alors que dans Girls, c'est juste hyper gênant enfin, à regarder pour le spectateur, ouais. Et c'est hyper réaliste. C'est ça que j'ai trouvé aussi vachement intéressant et vachement important de montrer à l'écran.
Et puis aussi, ouais. la créatrice, elle a l'âge. C'est-à-dire que la créatrice, Lena Dunham, joue dans sa propre série l'héroïne et elle écrit la série. Et je vois aussi comment cette jeune femme a évolué, par exemple, sur la question du consentement. Ça évolue, en fait, au fil des saisons. Et dans la dernière saison, je veux dire, il y a un épisode qui s'appelle American Bitch, qui est absolument brillantissime sur, justement, c'est quoi la zone grise et à quel moment, en fait, on se sent dépossédé de quelque chose et ce que ça nous fait. Et moi, je trouve que c'est... Voilà, moi j'en ai beaucoup parlé dans mon premier livre Sex and the City. Et moi je pense que c'est une série hyper importante justement et qui nous montre aussi une époque très précise avec une créatrice qui bouge. Quand on lui reproche par exemple que tout le monde est blanc dans sa série dans la saison 1, bah elle réagit quoi. Et ça je veux dire on voit quelqu'un d'extrêmement privilégié mais qui en prend conscience alors qu'elle est en train de créer sa série. Ça c'est hyper intéressant d'un point de vue historique et social.
Ouais, puis même, c'est le point de départ de la déconstruction, pour moi. C'est qu'on vit dans une société qui est et raciste et patriarcale, etc. Et le fait même de créer quelque chose dedans, ça va enfin, si on n'a pas réfléchi 2 secondes, ça va forcément être raciste et patriarcal. Et en fait, de se remettre en question, ça, c'est quand même une sacrée force. Et aussi, moi, ce que j'adore chez Lena Dunham, c'est sa façon de mettre en scène son propre corps qui rentre pas du tout dans les normes on va dire qu'on voyait à la télé en règle générale. Et ça a dû la série a été produite par HBO parce que du coup c'est la série enfin c'est la chaîne un peu olé olé tu vois et c'est enfin moi, je trouve qu'elle a vraiment révolutionné quelque chose et ouais, j'aime beaucoup de cette série.
Et puis, il faut savoir qu'elle s'en est pris plein la gueule.
Ça m'étonne.
Et je veux dire, quand elle se mettait en scène nue, comme un corps, en fait, désirant, c'était insupportable pour la plupart des personnes qui regardaient la série. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire. Et même moi, je me souviens très bien, mon regard entre la première saison et la dernière saison sur ce corps, il a évolué.
Ouais.
La première saison, je la trouvais moche. Mm-hmm. La dernière saison, je la trouvais belle.
Ouais.
Donc ça veut dire que nous-mêmes, ça nous apprend quelque chose quand même de savoir qu'on n'a pas l'habitude de voir ces corps-là. Qu'est-ce que ça produit quand on passe un certain nombre d'heures avec ce corps-là, quand il se comporte comme un corps qui peut désirer et qui est désirable? Eh bien, il le devient.
Ouais, c'est clair.
Et je veux juste revenir sur... Bah, moi, j'ai pas vu Girls, par exemple. J'ai vu que quelques premiers épisodes. Et après, j'ai lu déjà Sex and the Series. Et puis j'en parlais avec Jo parce qu'elle a regardé et du coup elle me disait un peu ses réactions, comment elle appréciait ce nouveau regard. Et en fait moi ce que j'ai appris et que j'ai aimé et que j'ai compris que ça a été un héritage, c'est justement l'échec en fait. Ça veut dire que par exemple un film, ça laisse, l'écriture d'un film laisse pas le temps à une femme d'échouer un rapport sans que justement ça tombe dans le comique, ça dure 2 secondes, on n'en parle plus, et qu'elle ait un glow-up par exemple qui dure 1 heure à l'écran et on la force de code, etc. Alors que justement dans la série, ça laisse le temps à l'échec et ça laisse le temps aux femmes de justement, elles peuvent littéralement rater un rapport sexuel et sans avoir à s'en excuser, sans avoir à que ça ait un objectif scénaristique, et c'est juste des choses qui arrivent, et franchement c'est toujours rafraîchissant de voir ça, parce que on en est arrivé à une sorte de féminisme libéral 3.0 où les femmes elles sont mauvaises au lit. Ah bah absolument pas, je vais te montrer avec cette série là que elles sont justement des, elles courent toutes les jupons, c'est des donjouans, on a dépassé ce stade de la petite traînée de la rue, non c'est fini ça, les femmes elles sont méchantes entre elles, absolument pas, cette nouvelle série elles sont toutes copines, non c'est fini, les femmes peuvent être méchantes entre elles, elles peuvent être crues, elles peuvent être, avoir des défauts, être nulles au lit, être limite indésirable aux yeux des hommes, et je trouve que c'est un héritage que Girls a laissé et que c'est le plus agréable à regarder.
C'est vrai. Et on a parlé, du coup, on a évoqué ça dans Girls, que Lena Dunham, on lui a reproché un peu le too much white hein, dans sa série. Il en est quoi de la représentativité dans les groupes de femmes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans ce qu'on peut y représenter? Et c'est quoi les séries qui vous ont tout de suite éveillé à cette inclusivité?
Bon, Insecure, pour moi, je pense que c'est hyper important. Déjà, je me suis rendu compte, moi, donc moi je suis une femme blanche, en regardant la série, qu'il y avait aussi des blagues que je ne comprenais pas. Et ça, j'ai trouvé ça hyper important, parce que je me suis dit que, voilà, c'était... et de me rendre compte aussi de ma couleur de peau. Parce que je pense que quand on est une spectatrice blanche et qu'en fait, on ne voit que des héroïnes blanches tout le temps, on ne se pose plus cette question-là. Et en fait, de voir des héroïnes noires qui avaient leur propre langage, qui avaient leur propre blague et auxquelles je n'avais pas accès à tout, bah, je trouvais ça en fait très important comme réveil et éveil pour ma part.
Bah, pour moi, ce serait The Bold Type, du coup. Parce que même si après au niveau des corps c'est pas du tout comme Girls où pour moi Anna ça reste quand même le seul personnage principal d'une série qui a un corps vraiment lambda qui rentre pas dans les normes actuelles de beauté, The Bold Type ça a quand même vachement essayé de jouer au niveau de la représentation, donc des origines mais également de la sexualité. On a quand même un personnage lesbien qui est voilé, qui est musulmane, enfin pour moi c'était hyper intéressant, et je sais que ça a été quand même vachement critiqué, enfin il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un peu too much, que Bubble Tap essayait de mettre trop de genres différents, de représentations différentes, mais en fait je pense pas que ce soit un problème, enfin pour moi ça l'est pas, parce que la représentation c'est hyper important à l'écran, que ce soit au cinéma, dans les séries, etc. Donc moi j'ai trouvé ça vachement intéressant de montrer justement tout ça quoi, avec le personnage d'Adena en particulier.
Moi du coup je pense pas que j'ai grandi avec ça. Dans le sens où, moi, quand j'étais petite, avec mes sœurs, on avait tout le temps... Enfin, tous les enfants, on a l'habitude de voir un groupe d'amis. Et quand on regarde les Winx, on dit « Ah non, toi, t'es Bloom. Ah non, moi, je suis Musa. Bah, » par exemple, moi, je vais être Flora. Et quand on regarde Totally Spies, ça va être Alex. Et puis, en grandissant, j'ai vu que, bah tiens, Friends, il n'y a pas d'arabe à laquelle tu pourras te assigner d'habitude. Enfin, d'habitude, je m'étais en mode, automatiquement, il y a une fille qui est racisée, qui n'est pas blanche. C'est ton moment de te dire... Ah, c'est moi en fait, et trouver un modèle, etc. Et puis maintenant que j'ai grandi, je trouve toujours pas. Je trouve plus ça. Mais d'un côté, c'est plus un besoin complètement égoïste. J'aurais bien aimé grandir avec un modèle qui me ressemblait. Mais là, peut-être que j'ai dépassé, que j'ai réussi à me construire au-delà des images des séries. Donc plus le cinéma par exemple, où j'ai regardé des films qui proposaient plus de diversité. Mais en tout cas. Dans les séries d'aujourd'hui, à part dans Scam, je pense que c'est la dernière série où j'ai vraiment pu tellement aimer que j'arrête toutes les langues, parce que je me suis dit, si on a une arabe, je vais la regarder parler en français, en espagnol, en tout. Et du coup, bah, en attendant, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner.
Ouais. Et puis il y a aussi au niveau de l'âge, je trouve qu'il y a un point hyper important pour les femmes. Les actrices au-delà de 40 ans jouent déjà à 40 ans, t'es sûre, t'es la mère de quelqu'un. Voir la grand-mère, hein, parce que ça, c'est dur, hein, le manque de représentativité des femmes âgées, enfin plus âgées en tout cas. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on doive se concentrer sur des séries. Bon, après, forcément, quand c'est des groupes d'amis, on a tout un peu le même âge. Enfin, voilà, on traîne dans les mêmes groupes, on évolue dans les mêmes milieux sociaux. Mais il y a des séries qui sont concentrées sur des femmes plus âgées. Et il n'y en a pas forcément. Elles sont toujours un peu dans le background des autres séries qui sont concentrées sur des femmes jeunes. Entre 20 et 25 ans, puisque c'est là qu'on est désirable, tout le monde le sait. Je reviens à Desperate Housewives, que je me refais là, et j'étais agréablement surprise du nombre de personnages féminins qui sont plus âgés que ces quatre femmes au centre de l'histoire. Et même ces quatre femmes-là, en fait, elles ont pour certaines plus de 40 ans, et elles sont. Bon, c'est les personnages principaux. Personnages principaux, mais il y a aussi des vieilles dames autour de leur maison qui deviennent de plus en plus importantes.
Non, mais je pense que le problème en fait de Desperate Housewives, c'est un peu comment ça s'est terminé, parce qu'en fait, si tu vas jusqu'au bout, c'est quand même assez terrible, hein, ce qui se passe. Même par exemple, le seul personnage lesbien, c'est absolument terrible. Enfin, je pense que c'est quand même une série
Je me souviens plus du coup.
Mais bon, mais je pense à une autre série qu'on n'a pas encore évoquée, et en parlant de l'âge, ça m'y fait penser. C'est Orange is the New Black.
Oui.
Où évidemment, bon, là, ce qui lie toutes les femmes, c'est d'être dans un univers carcéral.
Ouais, pour le coup, c'est hyper circonstanciel.
Mais ça, du coup, c'est intéressant parce que c'est pas des personnes qui viennent toutes du même milieu social, c'est pas des personnes qui viennent toutes du même endroit et qui apprennent, en fait, à devenir amies, certaines d'entre elles. Il y a beaucoup de personnages racisés. Ça parle aussi de ça, de certaines communautés et d'entraide dans ces communautés-là. Et ça parle aussi de plusieurs orientations sexuelles. Enfin, moi, je trouve que c'est une grande série, en fait, avec des personnages plus âgés aussi, sur le personnage de Red, par exemple. Enfin, et puis, qu'est-ce que c'est qu'être une figure maternelle dans un groupe d'amis ? Ouais. Qu'est-ce que c'est, tu vois, comment est-ce que l'âge... a un impact aussi sur tes amitiés. Est-ce qu'on peut être... Parce que ça, je trouve que ça manque aussi. C'est-à-dire des relations avec des femmes qui ont plus de 60 ans, qui sont là pour nous transmettre peut-être autre chose. Et je trouve qu'on montre beaucoup... Enfin, pas énormément, des mères et des filles, oui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cet autre rapport qu'on pourrait avoir avec la génération d'au-dessus ? Et ça, c'est pas valorisé assez, je trouve.
Mm-mm. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup. Et puis, je voulais parler aussi du fait que Dollface fait partie de ces séries qui ont été créées par des femmes. Elle a été créée par Jordan Weiss et elle est produite en partie par Margot Robbie. Donc, c'est deux femmes qui se retrouvent aux commandes de la série. Est-ce que vous voyez vraiment des différences claires entre des séries qui sont créées par des femmes et des séries qui sont derrière lesquelles se trouvent des hommes ? Est-ce qu'il y a des choses un peu insoutenables que vous relevez ?
Série créée par des hommes, forcément, on parle que de tout le temps et un peu tous nos problèmes ou tout ce qui nous arrive de bien ou de mal dans notre vie, ça va être de près ou de loin lié à un homme, lié à notre père, lié à un petit copain qu'on a eu. Enfin, donc ça, je trouve ça vraiment hyper chiant. Enfin, on n'a pas que dans notre vie du tout, heureusement. Donc il y a ça déjà et il y a aussi, je veux revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à Lena Dunham dans Girls et à son corps. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est que vraiment, on ne parle jamais de son corps. Enfin, c'est pas du tout un problème. Ouais. Donc, quand on commence la série, c'est un peu comme s'il y avait un accord tacite dans le fait qu'on se dit, c'est son corps et on n'en parle pas. Alors que je suis sûre que si ça avait été une série créée par un homme, ça aurait été une storyline, elle aurait été complexée ou il y aurait eu quelque chose comme ça parce que c'est un peu aussi leur but. Enfin, c'est la société patriarcale de forcément nous faire complexer sur tout. Et de nous trouver des problèmes là où on n'en a pas. Et c'est ça que j'ai trop aimé dans Girls, c'est que son corps, c'est son corps, on n'en parle pas, elle n'est pas complexée, elle ne fait pas de régime, on la voit manger, elle fait ce qu'elle veut, on la voit nue, on la voit coucher avec des mecs qui, eux, rentrent dans les codes de beauté actuels, qui sont hyper musclés ou je ne sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un peu, ça renverse un peu les séries d'hommes où on a des mecs... qui, eux, ne rentrent pas dans les codes de beauté actuelle et qui vont coucher ou sortir avec des femmes qui vont être magnifiques, hyper belles et tout. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant.
Moi, quand je pense à showrunner féminine, je pense à Shonda Rhimes.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est, sans être dans un discours complètement girl boss libéral, c'est une reine, etc. Mais je pense qu'elle a vraiment su comprendre non seulement la société dans laquelle... on vit, mais en fait, comprendre son audience et comprendre à qui elle parlait, en fait. Donc, c'est pas juste des hommes qui produisent des images de femmes sans comprendre que c'est des femmes qui vont les regarder. Donc, sans se soucier de, par exemple, la désirabilité de la femme à l'écran, parce que les hommes qui produisent ça, ils vont se dire non, il faut que la femme soit désirable. Alors que Shonda, je trouve qu'elle a trouvé un juste milieu entre carriérisme, entre rapport de compétitivité entre les femmes, je pense à Grey's Anatomy par exemple, où c'est juste avec un juste milieu qui, oui, qui tombe pas au ridicule en fait, et c'était agréable à regarder aussi.
Moi, je pense que c'est une question un peu casse-gueule, parce que c'est très rare, en fait. Une série, elle peut être créée par quelqu'un, après, elle peut être showrunnée par plusieurs personnes, oui, selon ça, les saisons. C'est-à-dire que c'est la personne qui va diriger la salle d'écriture et qui va avoir le final cut sur le montage. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont le réaliser. Et puis, il y a aussi des salles de scénaristes qui évoluent selon les saisons.
Donc, c'est un peu la différence avec les films où là, on a vraiment des équipes complètes de scénaristes et de réalisateurs, même sur les séries, quoi.
Ouais, donc c'est très difficile en fait de genrer la question parce que par essence la série normalement c'est une aventure collective. Il y a une seule série où il y a eu que des femmes qui ont écrit la série, c'était I Love Dick qui a été créée par Sarah Gubins et Joey Soloway. Donc c'était la première fois que ça arrivait à Hollywood, on était en 2017 il me semble ou 2018. Donc c'est difficile en fait de dire que c'est une question genrée. Sex and the City, s'il n'y avait pas eu des hommes, Darren Star et Patrick E. Kelly, ça n'aurait jamais existé. Donc encore une fois, il faut, et même si c'est pas eux qui ont écrit les épisodes, il faut quand même voir que grâce à certains hommes, on a réussi à avoir des œuvres importantes. Je me souviens très bien de Eileen Shaiken qui a fait donc The L Word. Elle m'a dit que elle avait pitché au network la série, que ça n'avait pas été pris et il a fallu qu'il y ait Queer as Folk, donc qui est d'abord une série britannique sur un groupe d'hommes gays à Londres, d'ailleurs pas à Londres, en Angleterre, qui existe pour que elle puisse vendre son projet. Donc de toute façon, dans une société patriarcale, il faut toujours qu'on ait quand même des hommes qui fassent des choses pour que les femmes passent après. J'adorerais qu'on en soit pas là, mais on en est encore là. Et c'est Shonda Rhimes, hein, c'est sûr, qui a commencé à vraiment faire bouger les choses et à prendre beaucoup de pouvoir. Donc c'est grâce à ces femmes-là que les choses évoluent. Mais voilà, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va forcément avoir des représentations féministes. Et c'est pas parce que c'est un homme que ça va être forcément dans la caricature non plus.
Oui.
Si évidemment qu'on voit quand même qu'il y a une vraie corrélation. Plus il y a de femmes showrunneuses, plus il y a de personnages féminins. Ça, il faut le savoir, c'est prouvé statistiquement. Le Gina Davis Institute et aussi l'Université de San Diego montre des statistiques, à chaque fois c'est la même chose. S'il y a des personnages racisés qui écrivent, il y aura plus de personnages racisés dans la série. Donc évidemment que les personnages et les personnes qui créent vont avoir un impact sur les personnages que nous on va voir. Donc c'est important. Évidemment que c'est grâce aux femmes comme Shonda Rhimes, comme Lena Dunham, comme Jenji Kohan, comme Sarah Gubins, comme Joey Soloway, que les représentations ont évolué. Mais bon, il faut quand même comprendre que c'est des aventures collectives.
Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je voulais en profiter que tu sois là, Iris, pour parler un petit peu du male et du female gaze.
Ouais.
Pour revenir un peu, tu le fais très bien dans le livre Le regard féminin, que j'ai eu à mon anniversaire. Et dès l'introduction, en fait, tu redéfinis ce que c'est que le male et le female gaze. Et je trouve ça intéressant que ce soit pas, en fait, le male gaze, c'est pas forcément fait par un homme. Et le female gaze n'est pas forcément fait par une femme. Et ça, c'est hyper intéressant.
Bah oui, c'est parce que toutes les femmes ne vont pas écrire et filmer de la même manière. Et tous les hommes ne vont pas filmer et écrire de la même manière. Même si... Soyons clairs, hein, je veux dire, il suffit de regarder la filmographie à la fin de mon livre qui essaye de recenser un peu les films qui génèrent ce regard féminin. C'est majoritairement des femmes qui vont s'intéresser aux expériences du féminin, qui vont les écrire, qui vont les mettre en scène. C'est sûr, mais on a James Cameron qui nous fait Titanic,
bah oui.
On a Ridley Scott qui nous fait Thelma et Louise. Donc voilà, c'est pour dire que, évidemment, que les expériences du féminin, elles sont souvent mieux raconté par des femmes, mais pas toujours. Et c'est intéressant de le prendre en compte aussi.
Trop bien. Bah, merci beaucoup à toutes les trois. Je voudrais juste terminer ce podcast avec peut-être chacune votre tour, vous pourriez dire, une bande d'amis, soit dans la vraie vie, peut-être ça peut être la vôtre, je sais pas, ou que vous aimeriez voir porter à l'écran, ou je sais pas, un groupe de gens que vous aimeriez voir.
Bah, je trouve que c'est une question hyper, hyper dure, mais en vrai, je pense que la bande de copines la plus réaliste, c'est la mienne, quoi. Et celle qui serait le mieux à l'écran, enfin, franchement, on cartonnerait. Hein.
C'est vrai, tu castes toutes tes potes.
Ouais.
Trop bien, Zineb.
Moi, je pense que je ferai une série avec plein d'échecs, parce que la vie
est plein d'échecs.
Non, mais c'est horrible. Mais en fait, entre le lycée et là où on est à la vingtaine, genre moi j'ai 21 ans, je suis encore un bébé, mais la vie n'est qu'une succession d'échecs, en fait. Et du coup, j'en ai marre de voir des amis où tout va bien pour eux. J'ai envie de voir des cœurs brisés, des stages refusés, c'est ça que je... C'est ça ma représentation.
Ça sent le vécu, ouais.
Exactement. Mais en tout cas, voir une arabe qui raterait un stage, je pense que ce serait le maximum que je pourrais demander à Shonda Rhimes.
Et toi, Iris? Moi, j'ai envie de voir la série de Zineb, ouais. Non, mais j'aimerais bien, moi, voir une série, en fait, avec les colleuses féministes. Parce que pense que ce qui est hyper intéressant, en fait, dans la sororité, c'est de voir des femmes autonomes qui sont aussi en autogestion, qui existent en dehors d'un regard masculin et qui sont, en fait, qui montrent que le lien entre les femmes, même si elles ne se connaissent pas, c'est ça qui peut renverser, en fait, la domination masculine. Et ça, je trouve que il y a un message politique fort, mais... quand moi j'ai collé, j'ai toujours. Je sais que les femmes avec qui j'ai collé, je les considère comme des amies, même si je ne leur parle pas, même voire jamais. Je pense à elles en fait, et elles sont présentes autrement. Donc je pense que la sororité, ça peut être au-delà d'un lien amical, ça peut être reproduire les gestes ensemble et être là dans un moment ensemble. Et finalement, ça crée des liens à vie aussi.
Trop bien. Vous avez fait plein de séries, j'ai trop hâte de les voir. Merci vraiment à vous trois d'être venus dans cet épisode d'Affiché. Et c'était hyper intéressant, c'était trop cool. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à Disney Plus d'avoir sponsorisé cet épisode d'Affiché. L'épisode 4 de Dollface est dès à présent disponible sur leur plateforme et vous y retrouverez l'amitié délirante de Stella, Madison et Jules. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être aussi fidèles et d'avoir écouté cet épisode d'Affiché en entier. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et puis laissez-nous un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous, vous connaissez le bouche à oreille, tout ça. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.